Nous commençons cette deuxième partie de notre séance et je vais passer la parole pour commencer à Christophe Litvin qui enseigne à la New York University, c'est bien cela ?
Enseigné en tout cas.
Qui enseignait à la New York University, qui est l'auteur d'une thèse dont j'ai entendu le plus grand bien et qu'il a bien voulu me donner, Généalogie de l'amour de soi, Montaigne, Pascal, Rousseau. Je me réjouis donc de le lire et avant cela de l'entendre pour une communication qu'il a intitulée « La théorie de l'homme entendue comme généalogie morale ». À vous la parole.
Bien, je voudrais commencer par remercier donc les organisateurs de ce colloque, Claude Habib et Pierre Manin, et remercier ici deux fois Pierre Manin, puisque à l'issue de la discussion précédente, il a ménagé une transition toute faite, en fait, avec le sujet qui va commencer par m'occuper en posant la question du rapport de la pensée chrétienne. Je laisse peut-être les gens rentrer. Donc oui, la question du rapport de la pensée chrétienne, notamment de la réception de Rousseau pour la pensée chrétienne, soulignant le fait que si on prenait la question du dogme du péché originel comme un marqueur fondamental de la pensée chrétienne, eh bien dans ces conditions, Rousseau risquait d'être présenté comme anti-chrétien, ou anti-chrétien, en tout cas non-chrétien. Pour marquer cela, en fait, je commencerai, en fait, c'est un des textes sur lesquels je vais le plus m'appuyer lors de cette communication, sera la lettre à Christophe de Beaumont, à l'archevêque Christophe de Beaumont. C'est une réponse de Rousseau à un mandement qui avait été écrit par l'archevêque, où Rousseau, justement, présente sa philosophie au regard d'une critique faite par un archevêque et repère finalement dans ce que j'appellerais, pour résumer, les doctrines augustiniennes, celles-ci pouvant aller du jansénisme finalement au calvinisme, ce qu'on veut finalement, tant que le point essentiel, c'est, je pense, et par lequel commence Rousseau, c'est la question du positionnement de sa propre philosophie relativement au dogme du péché originel. Et je commencerai donc par une citation de Henri Gouillet dans son introduction, en fait, dans l'édition de la Pléiade, à ce texte, où il me semble poser le problème assez bien. Je cite Gouillet donc. Nous sommes ici au centre de la philosophie que la raison éclairée par la conscience élabore du premier discours à Émile. Mais ce christianisme, Rousseau l'appelle la religion humaine et sociale. Autrement dit, christianisme et humanisme découvrent l'un dans l'autre leur essence commune. Il n'était pas nécessaire d'être janséniste ou calviniste pour se demander si ce christianisme n'était pas tellement humaniste qu'il n'était plus chrétien. Ici et là, Rousseau a reconnu les tendances de la pensée chrétienne les plus radicalement hostiles à son humanisme, celles que précisément son humanisme veut extirper du christianisme. Et la première de ces tendances du christianisme radicalement hostile à la philosophie de Rousseau ou à ce que Gouillet appelle son humanisme, c'est le dogme du péché originel. Pourtant, en un sens, ce positionnement de Rousseau par rapport au dogme du péché originel, disons avant la lettre à Christophe de Beaumont, qui est un texte postérieur à l'Émile, et postérieur surtout à la profession de foi du vicaire savoyard, n'était pas nécessairement quelque chose qui allait de soi pour le lecteur de Rousseau. Je dis cela parce que on sait quel rôle joue dans la pensée de Rousseau sa critique de l'amour propre. Et on sait qu'on peut, et d'ailleurs c'est des lectures qui ont été produites parmi les commentateurs rousseauistes, on peut être tenté de relire le second discours, justement, comme une sorte de description naturaliste de la chute de l'homme, de la chute d'Adam. Donc il n'allait pas nécessairement de soi, étant donné sa critique de l'amour propre, ce modèle de la chute qu'on pourrait décrire dans le second discours. Bon, et d'autres échos qui sont manifestes à La Rochefoucauld ou à Pascal, qu'on trouve ici et là, et parfois dans des lieux décisifs. Il n'y avait pas de soi que Rousseau s'opposerait ainsi au dogme du péché originel, et en tout cas dans son interprétation augustinienne, l'amour-propre étant le concept central pour penser le péché originel et la chute de l'homme dans l'augustinisme. Bon, alors je ne veux citer qu'un texte central qui montre d'ailleurs un de ces échos. On connaît tous l'ouverture de la deuxième partie du discours sur l'inégalité. Le premier qui, en tant que loup un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi », etc. Beaucoup de lecteurs de Rousseau, à commencer, je crois, par Chateaubriand, ont constaté, ont suggéré, en tout cas, que ce texte pouvait être une réécriture d'un célèbre fragment des pensées de Pascal, donc d'un janséniste, d'un modèle de cet augustinisme qu'il s'agit de critiquer, le fragment 64 des pensées, « Mien, tiens, ce chien est à moi, disaient ces pauvres enfants, c'est là ma place au soleil, voilà le commencement et l'image de l'usurpation de toute la terre. » Bon. Écho suffisant, je dirais, entre de nombreux textes de Rousseau et des textes de Pascal et de La Rochefoucauld pour se demander qu'est-ce qui finalement distingue radicalement Rousseau de ses augustiniens. Bon, je crois que la question qui est centrale et qui les distingue, c'est le fait que pour l'augustinisme, l'amour-propre est une corruption de l'amour de Dieu. Pour Rousseau, c'est une forme corrompue, parmi d'autres d'ailleurs, de l'amour de soi. Donc, logique tout à fait différente, et de ce point de vue, on peut juger que Rousseau, je citais le texte de Gouillet qui disait qu'il cernait une opposition entre l'humanisme de Rousseau et son christianisme, Rousseau s'inscrit justement dans la longue filiation, longue en tout cas depuis la Renaissance, de ce qu'on a appelé l'humanisme chrétien, et je citerai en fait ici, je me référerai à un article de Jean Lafont, qui s'appelle « Avatar de l'humanisme chrétien, amour de soi et amour propre ». Et Jean Lafont, dans cet article, montre que cette distinction a précisément ses origines dans une discussion, un débat ou une querelle, si l'on veut, entre les humanistes chrétiens qui soutiennent que malgré le péché originel, malgré la chute, on peut retrouver dans l'humanité une part de nature qui n'a pas été entièrement corrompue, et les augustiniens qui disent et qui leur oppose qu'en dehors de la charité, en dehors de, finalement, l'entrée dans le corps de l'Église, toutes les vertus ou supposées vertus humaines, et à commencer par les vertus païennes, étaient de fausses vertus. Or, ce qui est intéressant, ce que je voudrais commencer par remarquer, et Lafont fait de Rousseau un des derniers avatars de cet humanisme chrétien. Simplement, justement, ce que j'aimerais montrer, c'est pourquoi, chez Rousseau, la tension entre humanisme et christianisme est plus forte que chez les autres. L'accusation traditionnelle des augustiniens à l'égard des humanistes chrétiens, c'était de leur dire « vous êtes des disciples de Pélage », c'est-à-dire « vous ignorez l'étendue du péché originel et quelque part vous niez en quoi consiste la corruption de l'homme hein. ». Vous effacez en vous-même la conscience de la faute. Les humanistes chrétiens avaient toujours tendance à répondre sur la défensive sur ce terrain-là, c'est-à-dire à toujours dire que non, il fallait bien entendu y rester une part non corrompue de notre nature, mais cela ne signifiait pas qu'il n'y avait pas de péché originel. Bon. La différence de la position de Rousseau, c'est que quelque part, il ne va absolument pas nier que la corruption est totale, mais il n'en cherchera absolument pas la cause dans le péché originel. Je remarque simplement que dans la lettre à Christophe de Beaumont, il utilise finalement de façon ironique l'argument ou l'objection qui était celle des augustiniens à l'égard des humanistes chrétiens, mais cette fois-ci à son propre compte, pour dire les augustiniens reprochaient aux humanistes chrétiens d'ignorer que les vertus humaines étaient fausses. Et Rousseau dit la chose suivante à Christophe de Beaumont. « Monseigneur, il n'y a d'autre moyen de se délivrer du péché originel et de ses effets que le baptême. » D'où il suivrait, selon vous, qu'il n'y aurait jamais eu de citoyens ni d'hommes que de chrétiens. Ou niez cette conséquence, ou convenez que vous avez trop prouvé. Donc il renverse l'argument ancien des Augustiniens pour l'opposer à l'archevêque Christophe de Beaumont et le mettre dans une situation où il ne peut, surtout au temps de Rousseau, accepter cette conséquence. Bon. Mais alors, j'aimerais aller plus loin dans l'importance, justement, dans l'interprétation de l'importance de cette franchise du rejet du dogme augustinien, du dogme du péché originel chez Rousseau. Justement, en le comparant peut-être plus précisément à une de ses principales sources, peut-être un des auteurs qui, sur la question de la théorie des passions et de l'amour de soi, est le plus proche de lui, c'est-à-dire Jacques Abadie, dans son traité de l'art de se connaître soi-même. Alors, je ne vais pas m'étendre dans trop de références, mais j'aimerais juste montrer ce qui va distinguer leurs approches. Ce que Abadie se propose de faire dans ce traité, c'est, il prend garde d'abord de ne pas chercher à expliciter la source de notre corruption, hein. Mais il veut s'en tenir au plan d'une analyse naturelle du cœur de l'homme, hein. Une analyse naturelle du cœur de l'homme qu'il appelle aussi bien une anatomie du cœur de l'homme, hein. C'est une expression qu'on trouve chez lui. Si nous nous mettons à faire ici, pour ainsi dire, l'anatomie du cœur en entrant dans le détail de ses passions, hein. Métaphore de cette anatomie. Bon. Juste pour donner un exemple de l'influence d'Abadie sur Rousseau, pour mieux comprendre après ce qui va l'en distinguer, je citerai juste un passage de l'art de se connaître soi-même, dont vous allez reconnaître manifestement des échos remarquables dans le second discours. Je lis ce passage. « J'avoue que si nous nous aimions nous-mêmes par raison, nous pourrions concevoir que l'amour de nous-mêmes serait dans une mesure limitée dans notre cœur. Mais l'auteur de la nature, dont la sagesse a trouvé qu'il ne fallait point renvoyer les hommes à avoir soin de leur conservation jusqu'à ce qu'ils fussent philosophes », ça fait directement écho à une formule du second discours, où parlant de la vertu de Socrate, Rousseau dit qu'il appartient aux grands hommes tels que Socrate de pouvoir guider leur vertu par leur seule raison, mais qu'heureusement, la nature nous a fourni un instinct qui nous donne justement beaucoup plus de sagesse et qui est le soin de notre conservation. L'expression « soin de notre conservation » qui est chez Abadie se retrouve telle qu'elle chez Rousseau. Donc, qu'il ne fallait point renvoyer les hommes à avoir soin de leur conservation jusqu'à ce qu'ils fussent philosophes, a voulu que nous nous aimassions par sentiment. Ce qui est si vrai qu'il n'est pas même concevable que nous puissions sentir quelque plaisir et quelque joie sans aimer nécessairement ce soi-même qui en est le sujet. » Voilà la citation d'Abadie. Alors bon, j'ai souligné la proximité avec Rousseau dans ce texte. Et pourtant, alors première chose, c'est, j'ai dit, Abadie ne cherche pas à expliciter le principe de notre corruption. Il fait l'analyse naturelle du cœur humain sous la forme d'une anatomie. Or, il me semble qu'une des décisions fondamentales de Rousseau ici, bien qu'il partage une théorie de l'amour de soi qui semble en apparence identique, Abadie appelle aussi les passions des modifications de l'amour de soi, ce qui est une formule qu'on retrouve telle qu'elle dans l'Émile de Rousseau. Hein. C'est la source de nos passions, l'origine et le principe de toutes les autres, la seule qui naît avec l'homme et ne le quitte jamais tant qu'il vit, est l'amour de soi, passion primitive innée, antérieure à toute autre, et dans toutes les autres ne sont, en un sens, que des modifications. Texte très très important du livre 4 de l'Émile, qui montre encore bien un écho avec Abadie. Mais c'est dans l'interprétation de ce concept de modification, en fait, qu'il y a une différence profonde. Abadie, je l'ai dit, parle d'une anatomie, ne cherche pas à expliciter le principe de la corruption. Au contraire, le geste de Rousseau, et tout particulièrement dans sa critique du dogme du péché originel, ça va être d'expliciter le principe de cette corruption et de montrer que ce principe, sa théorie de l'homme, permet de l'expliciter et de le rendre bien plus clair que le dogme du péché originel. Et deuxièmement, de montrer que là où Abadie faisait une anatomie du cœur humain, ce que se propose de faire Rousseau, c'est une généalogie. Travail généalogique, ça signifie qu'on inscrit justement les modifications des passions, on les comprend comme un engendrement. Hein. C'est un processus temporel. Bien. Alors je cite ici, parce que je parle de généalogie depuis deux jours, et puis il y a en fait une occurrence de ce concept de généalogie, elle est bien dans ce texte, la lettre à Christophe de Beaumont, et elle est bien en rapport direct avec la question du péché originel, hein, à cette occasion. Je lis ce texte. Il est un petit peu plus loin. Naturellement, il disparaît de ma vue. Alors, le voilà. J'ai montré que tous les vices qu'on impute au cœur humain ne lui sont point naturels. J'ai dit la manière dont ils naissent. J'en ai, pour ainsi dire, suivi la généalogie. Et j'ai fait voir comment, par l'altération successive de leur bonté naturelle, leur bonté originelle, les hommes deviennent enfin ce qu'ils sont. Hein ? La phrase où on trouve ce terme de généalogie, c'est « J'en ai, pour ainsi dire, suivi la généalogie et j'ai fait voir comment, par l'altération successive de leur bonté originelle, les hommes deviennent enfin ce qu'ils sont. Bon. » Alors Rousseau, dégageant cette idée de généalogie, justement, objecte des choses très fortes au dogme du péché originel. Première objection, il dit « Vous ne savez voir que l'homme dans les mains du diable, et moi je vois comment il y est tombé. » Autrement dit, de nouveau, cette dimension processuelle de la chute. La cause du mal est, selon vous, la nature corrompue, et cette corruption même est un mal dont il fallait chercher la cause. Bon. Mais là, justement, où les Augustiniens cherchent la cause de ce mal, dans la dépravation de la volonté, Rousseau dit qu'au contraire, la dépravation de la volonté est en réalité un effet de la corruption, et non pas sa cause. Autrement dit, la démarche généalogique consiste à d'abord critiquer le rapport de la cause et de l'effet. Pour le dire autrement, ce que dit Rousseau, c'est que loin que la faute morale d'Adam puisse expliquer la condition de l'homme dans un état de corruption, en réalité, elle est elle-même l'expression de cet état de corruption. Il fallait que l'homme soit corrompu pour que, ou en tout cas, il fallait cette altération successive de sa bonté naturelle pour que quelque chose comme une faute morale ou une mauvaise volonté puisse apparaître. Et donc, il s'agit d'inverser l'ordre de la cause et de l'effet. Alors, bon, cette critique de généalogique, si je puis dire, des doctrines du péché naturel va plus loin. Ce que reproche fondamentalement à cette doctrine qui fait de la faute morale de l'homme ou de sa culpabilité originelle la cause de notre corruption, dit Rousseau, c'est le fait qu'elle rend la justice de Dieu incompréhensible et obscure à l'amour de soi. Hein. Il faut quelque chose de non naturel pour comprendre justement que Dieu est bon et que Dieu est juste. Au contraire, la voie généalogique que se propose Rousseau devra montrer que l'amour de soi est tout à fait capable de s'étendre au genre humain et à l'amour de l'auteur de son être, à l'amour de Dieu. Autrement dit, il y a, aux yeux de Rousseau, il n'hésite pas à employer ce terme, quelque chose de blasphématoire dans les dures doctrines des théologiens, parce que justement, elles rompent le caractère naturel de cette transition de l'amour de soi à l'amour de l'ordre. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'elles font, ces doctrines ? Elles replient l'âme humaine ou rétrécissent l'âme humaine dans un champ des possibles qui est strictement limité à l'amour propre. Ou alors, pour dépasser ce champ des possibles, il faut une grâce, quelque chose de surnaturel. En ce cas-là, on a accès à une charité, mais en dehors du don de cette charité, le champ des possibles pour l'âme humaine est strictement circonscrit par les bornes de ce petit amour propre. Au contraire, la démarche généalogique, en montrant que la généalogie de notre corruption est différente, qu'elle procède de l'amour de soi, rouvre ce champ des virtualités ou des possibilités de l'âme humaine. Hein. Elle rouvre le champ des virtualités de l'âme humaine en les relisant, justement, comme des modifications de l'amour de soi. Ces modifications ne se limitent pas, ne se bornent pas à l'amour propre. C'est une considération fondamentale de Rousseau. L'amour propre n'est qu'une modification et non pas la plus naturelle ni la plus immédiate de l'amour de soi. Alors, la raison pour laquelle j'insiste autant sur cette critique du péché, du dogme du péché originel chez Rousseau et sur ce caractère fondamental du déplacement de la cause de notre corruption, de ne pas en faire une faute morale ou une contradiction, une dépravation de notre volonté, c'est qu'elle me semble non seulement singulariser Rousseau par rapport à ses adversaires de l'époque, mais aussi éclairer la singularité de Rousseau par rapport à sa postérité immédiate. Ce que j'appelle postérité immédiate, ici, c'est la relecture qu'en propose l'idéalisme allemand. Donc c'est ce que j'essaierai de montrer ici, brièvement à travers une comparaison avec Kant et avec Hegel. Bon, je vais essayer d'éclairer cela. Bien. Alors, l'idée qui me paraît fondamentale, en tout cas, c'est que si on doit chercher la cause de notre corruption chez Rousseau, ou les causes plutôt de cet état de corruption qui est le nôtre aujourd'hui, ou hier, en tout cas pas moins aujourd'hui qu'hier, pour Rousseau, il ne s'agit pas simplement d'expliquer que l'homme est dans les mains du diable, mais comment il y est tombé, c'est cette expression « dans les mains du diable ». Autrement dit, s'il y a quelque chose de diabolique dans la volonté des hommes aujourd'hui, il faut montrer comment ce mal moral a pu émerger. Mais en tout cas, on ne peut pas expliquer le mal moral par le mal moral, pour lui. Il faut remonter en amont. C'est donc, pour lui, l'effet des altérations successives de la bonté naturelle de l'homme. Hein, c'est ça. Altérations successives de la bonté naturelle de l'homme. Ce renversement généalogique, Rousseau nous dit que c'est le principe fondamental de toute morale. Je cite ici, « Le principe fondamental, c'est la lettre à Christophe de Beaumont toujours, le principe fondamental de toute morale, sur lequel j'ai raisonné dans tous mes écrits, et que j'ai développé dans ce dernier, il s'agit ici de l'Émile, et plus précisément de la profession de foi, mais dans tout le reste de ce passage, en réalité, Rousseau résume le second discours, que j'ai développé dans ce dernier avec toute la clarté dont j'étais capable, est que l'homme est un être naturellement bon, aimant la justice et l'ordre, qu'il n'y a point de perversité originelle dans le cœur humain, et que les premiers mouvements de la nature sont toujours droits. J'ai fait voir que l'unique passion qui naisse avec l'homme, savoir l'amour de soi, est une passion en elle-même indifférente au bien et au mal, qu'elle ne devient bonne ou mauvaise que par accident et selon les circonstances dans lesquelles elle se développe. Alors, la difficulté de ce texte, il me semble, c'est que lorsqu'on commence à lire, dans un premier temps, le principe de toute morale, le principe fondamental de toute morale selon Rousseau, on semble pencher, en lisant l'apparition de cette idée de bonté naturelle et de cet amour de la justice et de l'ordre, on semble pencher vers une interprétation qui suggère que la bonté pourrait avoir un sens moral ici. Mais juste après, la phrase d'après vient complètement invalider cette première lecture en disant « Mais l'amour de soi, en tant que tel, est une passion en elle-même indifférente au bien et au mal ». Et Rousseau précise ailleurs que dans l'état de nature, il y a, pour l'homme dans l'état de nature, une parfaite indifférence de départ au bien et au mal, c'est-à-dire aux idées morales. Donc comment articuler finalement d'un côté l'idée que l'homme dans l'état de nature, n'étant pas éveillé à la connaissance du bien et du mal, ne peut pas vouloir davantage l'un que l'autre? Et en ce sens, l'idée qui n'est pas naturellement mauvaise, ça c'est une idée qui est fondamentale, et l'idée qu'il y a une bonté naturelle de l'homme. C'est-à-dire qu'il y a, pour moi, quelque chose de difficile à articuler entre l'idée de la bonté naturelle de l'homme et l'idée, justement, de cette indifférence morale originelle. Hein. C'est d'ailleurs un point que Kant a voulu éclairer, il me semble, dans l'anthropologie du point de vue pragmatique, et dans ses conjectures sur les débuts de l'histoire humaine. Je ne fais pas un résumé de ces textes qui sont bien bien trop longs. Je présente juste ce qui me semble être l'essentiel de simplifiant énormément de la lecture kantienne de la bonté naturelle de Rousseau. Elle consiste à dire que ce que Kant appelle la nature originaire de l'homme, qu'il ne confond pas avec la nature humaine en général, c'est au fond l'homme dans la nature de l'homme dans l'état de nature. C'est précisément un état d'indifférence morale, nous dit Kant, et nous dit, on peut presque aussi bien dire que l'homme n'est pas plus bon naturellement que méchant naturellement. Au fond, l'homme est naturellement bon, pour Kant, cela signifie que sa bonté ne peut être, cette bonté ne peut être entendue qu'en un sens négatif, pragmatique. C'est l'idée que la nature porte en elle comme le germe du bien. Il n'y a rien dans la nature qui empêche le bien. Hein. Il n'y a rien dans la nature de l'homme qui empêche le bien. Au fond, cela signifierait seulement que, dans sa nature originaire, l'homme n'est pas un être méchant. Voilà. En tout cas, il n'est pas plus méchant que bon. Bien. Cette lecture, en tout cas de l'indifférence morale de l'homme et du fait qu'il n'y a pas en germe de méchanceté, me paraît cependant insuffisante. Parce que il y a cette phrase qu'on trouve là encore dans la lettre à Christophe de Beaumont où Rousseau, justement, ne semble pas valider l'idée qu'on puisse identifier, en quelque manière, la bonté naturelle de l'homme à sa seule, à l'indifférence morale de l'amour de soi de l'homme dans l'état de nature, hein, de l'homme borné au seul instinct physique. Il dit « Cette bonté originelle ne semble pas se déduire de l'indifférence au bien et au mal naturelle à l'amour de soi. » Alors, ce qui me semble, entre guillemets, non vu par Kant, qui me semble encore présent, en tout cas dans l'interprétation kantienne, c'est l'idée que si on parle de bonté naturelle de l'homme pour Kant, c'est parce que c'est un germe de la bonté morale. Autrement dit, il y a encore la projection d'un sens moral sur ce concept de bonté. Alors qu'il me semble que, chez Rousseau, on a une définition de la bonté naturelle qui n'est pas morale, qui est une définition amorale, en réalité. Je veux dire par là que il la définit comme un rapport proportionné entre la puissance et le désir. Parlant de Dieu, il dit qu'un être tout-puissant, donc rien ne borne, ne saurait qu'être bon, et il est bon parce qu'il est grand, ou il est bon parce qu'il est tout-puissant. Sa bonté dérive de sa toute-puissance. Il ne peut vouloir plus que ce qu'il ne peut, puisqu'il est tout-puissant. Et en ce sens, il est absolument bon. Bien entendu, le problème se pose différemment dans le cas d'un être faible, frêle, créé, et dans le cas de l'homme. Sa bonté naturelle, c'est simplement, et Rousseau le dit dans le second discours, c'est l'état de nature, c'est un état où il y a une parfaite proportion entre la puissance et les désirs de l'homme, puisque ces désirs ne sont justement pas activés par l'imagination. Ils ne sont pas modifiés par l'imagination. J'ajouterais sa puissance non plus. Il n'est pas activé non plus comme être moral, et donc, d'une certaine façon, il ne peut savoir ce qu'il peut comme être moral non plus dans cet état-là. Son moi n'est pas activé. C'est un moi passif, on pourra dire. Alors, je m'approche du point qui me paraît le plus essentiel. Quel est le sens de cette bonté naturelle, amorale, et j'irai plus loin, dont l'altération successive est en réalité la cause de notre sensibilisation aux idées morales, aux polarités morales que sont le bien et le mal. Il faut que la bonté naturelle soit altérée de façon successive pour que nous commencions à être sensibles aux idées morales du bien et du mal. Alors, j'aimerais ici lire, en fait, un texte juste de l'encyclopédie, un extrait de l'entrée mal de l'encyclopédie, hein, sur le mal. C'est un texte de Jaucourt où il reprend les thèses de William King, où il me semble donner une indication extrêmement importante pour l'interprétation du sens apprêté à cette expression de bonté naturelle. Je cite donc l'encyclopédie. « Toutes les créatures sont nécessairement imparfaites et toujours infiniment éloignées de la perfection de Dieu. On pourrait dire que chaque être créé est composé d'existence et de non-existence. C'est un rien tant par rapport aux perfections qui lui manquent qu'à l'égard de celles que les autres êtres possèdent. Ce défaut, ou comme on peut l'appeler, ce mélange de non-entité dans la constitution des êtres créés est le principe nécessaire de tous les maux naturels, on trouve ici le mal naturel, et rend le mal moral possible, comme il paraîtra par la suite. Autrement dit, ce qui rend le mal moral possible, c'est le mal naturel ici, présenté comme mélange de non-entité ou rapport privatif à soi qui serait originaire. Hein. Toute créature aurait, de par le fait qu'elle est un être créé, un rapport privatif à soi. Elle serait mélangée de non-entité. Mais je crois en fait que c'est ça qui oppose Rousseau finalement, qui est fondamental pour comprendre le concept de bonté naturelle de l'homme chez Rousseau. C'est que dans la compréhension que propose Rousseau de l'amour de soi de l'homme dans l'état de nature, mais plus généralement du sentiment de l'existence, il n'y a pas ce mélange de non-entité. Ou plus exactement, la projection d'une sorte de réalité ontologique de cette non-entité, du don-être dans la constitution d'un être propre, c'est un effet justement du dérèglement du rapport de la puissance et du désir. Ça n'en est pas la cause. Je veux absolument pas plus déborder que ce qui est requis. Je vais donc conclure. Il n'est pas requis de déborder, je croyais. Je vais donc conclure ici en disant quel était le sens de cette remarque. C'est que ce que je voulais au fond montrer, suggérer, c'est que Rousseau envisage des manières dont l'amour de soi se modifie, je dis naturellement. La pitié est le premier exemple qu'il donne de ces modifications. Modification naturelle de l'amour de soi, cela signifie justement que l'amour de soi n'est pas en puissance l'amour propre. Autrement dit, il n'y a pas pour Rousseau une contradiction qui serait déjà là dans l'amour de soi et que l'éveil de la conscience de soi humaine ne ferait que avérer, dont il s'agirait de prendre conscience. Il y a justement la description chez Rousseau de moments d'éveil de la conscience de soi, d'éveil de la conscience justement des limites et de la faiblesse de l'être créé ou de la créature, qui ne sont pas des moments, pour le résumer en un mot, qui seraient strictement orientés, comme c'est le cas dans la lutte à mort pour la reconnaissance chez Hegel, par un appétit de domination pour supprimer justement cette expérience du non-être en soi. Bon. Alors je ne vais pas, comme je n'ai pas le temps, je le ferai peut-être dans la discussion, j'expliciterai peut-être dans la discussion, dans un avenir proche, ces exemples. Et voilà, c'était cette idée-là que je voulais présenter. Je m'arrête. Merci beaucoup.
Compléter votre argument dans la discussion. Et je passe maintenant la parole à Vincent Descombes, qui n'est pas la peine de présenter. Il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et sa communication a pour titre « Transporter le moi ». Non. Oui, mais moi, je sais plus que vous.
Mon titre, c'est « Transporter le moi », et comme les rousseauistes intimidants qui emplissent cette salle le savent, j'emprunte cette formule, un passage qui a déjà été lu, mais comme c'est le texte que je vais commenter dans mon exposé, le seul texte sur lequel je m'appuie fondamentalement, je vous le lis, donc... tout au début du livre 1 de l'Émile, lorsque Rousseau se demande quelle sorte d'éducation donner à Émile et s'il faut en faire un homme ou un citoyen, il explique qu'en faire un citoyen demanderait qu'il y ait une éducation publique et il explique ce qu'il entend par là. Je cite « Les bonnes institutions sociales sont celles qui savent le mieux dénaturer l'homme ». Lui ôter son existence absolue pour lui en donner une relative et transporter le moi dans l'unité commune, en sorte que chaque particulier ne se croit plus un, mais partie de l'unité et ne soit plus sensible que dans le tout. Alors, je vais donc présenter quelques remarques à titre d'un essai de commentaire de ce texte. Premier point... l'œuvre des institutions sociales nous est présentée ici comme ce qu'on appellerait aujourd'hui la socialisation de l'individu. Et le fait de parler des bonnes institutions sociales revient à dire qu'il y a une bonne et une mauvaise socialisation. Alors je pense que la différence entre ces deux socialisations va au cœur peut-être du problème politique tel que Rousseau cherche à le poser, et en même temps donc de l'écart que fait Rousseau, le pas qu'il fait à côté de ce qu'il appelle lui-même la politique de notre siècle. Et si vous voulez, je pars de l'idée que la mauvaise socialisation, c'est au fond celle qui nous est présentée dans la préface du Narcisse comme étant ce que tout le monde autour de Rousseau trouve magnifique et un grand progrès, à savoir la politique comme absence de politique. Et je vous rappelle le texte. Rousseau écrit « Nos écrivains regardent tous comme le chef-d'œuvre de la politique de notre siècle les sciences, les arts, le luxe, le commerce, les lois et autres liens qui, resserrant entre les hommes les nœuds de la société par l'intérêt personnel, les mettent tous dans une dépendance mutuelle, leur donnent des besoins réciproques et des intérêts communs et obligent chacun d'eux de concourir au bonheur des autres pour pouvoir faire le sien propre. » Donc, en un mot, ce qu'il vise, c'est la politique comme économie politique, la politique comme politique de la société civile au sens hegélien, c'est-à-dire de cette ruse de la raison par laquelle chacun peut se livrer à son égoïsme en toute bonne conscience, puisque c'est justement de cette interaction entre les égoïsmes particuliers que naîtra le bien commun. Donc, paradoxe de Mandeville, etc., je n'insiste pas. Alors, dans le Narcisse, Rousseau n'a pas encore sa pensée développée sur le sujet, et tout ce qu'on peut retenir de là, c'est que il résiste à l'idée que la politique pourrait disparaître, c'est-à-dire que la visée de la politique pourrait être atteinte en se passant de toute politique proprement dite, c'est-à-dire de toute volonté du bien commun, puisque, si l'on en croit les écrivains de notre siècle, les nœuds de la société peuvent être obtenus, produits par toute autre chose que la volonté de l'intérêt commun, la volonté politique, c'est-à-dire la future volonté générale. Par conséquent, je pense que le problème de la socialisation qui se pose à nous, donc dans notre texte, c'est celui de savoir s'il y a une place pour la volonté dans la socialisation de l'individu. Autrement dit, est-ce que cette bonne socialisation est concevable et est-ce qu'elle est seulement possible humainement, anthropologiquement? La socialisation, en un mot, consisterait à modifier la croyance que le particulier a à son propre sujet, croyance selon laquelle il est une unité ou un tout ou une entité indépendante et non pas une partie. C'est cette croyance qu'il faut modifier. Donc la socialisation, c'est la modification de la conscience de soi. Voilà comment je définirais la chose. Et Rousseau l'explique un peu plus loin, dans la même page, quand il dit, prenant comme modèle les Romains, « Un citoyen de Rome n'était ni Caius ni Lucius, c'était un Romain, même il aimait la patrie exclusivement à lui. » Donc on pourrait comprendre, n'est-ce pas, que l'individu qui est passé par le bon processus de socialisation n'est plus conscient de lui-même en tant que ce particulier, par exemple Caius dans le cas de Caius, Lucius dans le cas de Lucius, mais qu'il a une conscience de soi générale ou en tant que Romain. Et c'est cela qui s'exprime aussi dans l'idée d'un transport de soi. Alors, mon seul problème dans les quelques minutes que j'ai, ce sera de comprendre transporter le moi. Est-ce que une psychologie du transport du moi permet à Rousseau d'exprimer son idée politique? Voilà ma question. Et donc cette question, elle se dédouble immédiatement. Que doit être le moi pour être transportable? Qu'est-ce qu'un moi transportable et comment concevoir un tel transport? Alors, je rappelle les faits archi connus, c'est que le moi substantivé, l'usage substantivé du moi au XVIIIe siècle est déjà une chose acquise, alors que c'était encore surprenant au XVIIe siècle. Mais je voudrais souligner une dualité qui affecte cette substantivation, dualité que le dictionnaire de l'Académie française enregistre toujours avec retard, comme il se doit. C'est seulement dans le dictionnaire de 1798 que les académiciens notent qu'il y a deux substantivations du « moi ». Et peut-être je vous cite le texte. « Moi » se prend quelquefois substantivement pour signifier l'attachement de quelqu'un à ce qui lui est personnel. Le moi choque toujours l'amour-propre des autres. Donc ça, c'est le sens issu de Pascal, disons. C'est le sens de l'amour-propre pascalien. C'est le sens janséniste, disons. Et ils le mettent en premier. Et puis ils ajoutent, en 1798, le mot se prend aussi en philosophie pour l'individualité métaphysique de la même personne. Et leur exemple, c'est « Malgré le changement continuel de l'individu physique, le même moi subsiste toujours. » Donc il y a un sens, je dirais, moral et un sens métaphysique. Il y a deux substantivations dans une dualité que le fait d'user du même mot signale pas d'emblée. Et cet usage d'un même mot, tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, permet en réalité des passages du propos du philosophe de l'un à l'autre. Et au fond, mon idée, c'est que le moi qui intéresse Rousseau, c'est celui de l'amour propre, mais le moi qu'il doit utiliser, c'est celui de la métaphysique. Et donc, je voudrais distinguer, si vous voulez, la métaphysique de l'esprit, la psychologie comme métaphysique de l'esprit. Donc, je vais revenir sur des choses qui ont déjà été évoquées ce matin, la Condillac, etc. Et puis, la psychologie morale du moi, qui est en réalité le problème de la volonté comme amour de son propre bien. Un bon exemple de la dualité que je viens de signaler, on le trouve déjà chez Rousseau, me semble-t-il, avec son usage de l'expression « sentiment de l'existence », expression très, très fréquente, et qui est prise tantôt au sens de la métaphysique de l'esprit, tantôt au sens d'une psychologie morale. Exemple de son usage pour d'un point de vue totalement métaphysique, c'est celui qu'on a lorsque le vicaire savoyard commence l'exposé de ses premières vérités, et il dit la première vérité, n'est-ce pas, c'est que j'existe et j'ai des sens. Alors il continue, je vous rappelle, ai-je un sentiment propre de mon existence ou ne la sens-je que par mes sensations? Donc problème condillacien. Et là, c'est manifestement le sens métaphysique. Mais nous avons, je crois, plutôt le sens moral dans le passage de l'Émile où Rousseau explique que les hommes sont des fous car ils mettent leurs soucis ailleurs qu'eux-mêmes et deviennent sensibles loin d'eux-mêmes. Et par exemple, le marchand, n'est-ce pas, est sensible en Inde. Et là, pour dire ça, n'est-ce pas, il dit... Nous approchons à tout, les temps, les lieux, les choses, tout ce qui est, tout ce qui sera, importe à tous. Notre individu n'est plus que la moindre partie de nous-mêmes. Chacun s'étend, pour ainsi dire, sur la terre entière et devient sensible sur toute cette grande surface. Et là, il conclut, nous n'existons plus où nous sommes, nous n'existons qu'où nous ne sommes pas. Donc là, il me semble, l'existence et le sentiment de l'existence, l'existence coïncide avec le sentiment de l'existence, puisque nous sommes là où nous sentons. Et évidemment, si, vendeur de coton, j'ai mes sensations en Inde, n'est-ce pas, si c'est l'Inde qui m'importe, nous n'avons plus là le sens métaphysique, nous avons le sens moral. Donc, il y a cette dualité, et elle n'est pas toujours, consciente. Le glissement se fait de lui-même, non seulement d'ailleurs chez Rousseau, mais chez les auteurs dont il s'inspire, comme par exemple Buffon, qu'on voit passer du sens métaphysique au sens moral dans le traité de l'homme. Alors, mes deux questions, n'est-ce pas? Comment le moi est-il transportable et est-ce qu'il est transportable? Quels sont les moi transportables et comment les transporter? Alors, ce qui apparaît, c'est que Il y a bien des théories du moi disponibles, et je dirais que tant que Rousseau s'en tient à la question métaphysique, il est assez cavalier, et le vicaire, en tout cas, déclare lui-même que ces questions ne sont pas le principal, de telle sorte que le moi est tantôt une certaine figure, tantôt une autre. Alors, les candidats, quels sont les candidats? J'écarte pour l'instant le moi pascalien, qui est celui de la psychologie morale. Quels sont les candidats dans une métaphysique du moi substantivé? On peut écarter Descartes, et donc je vais dire un mot du moi lockien et du moi condillacien. Alors, le moi de Locke, le self, c'est celui de l'identité personnelle, et Rousseau ne recule pas devant l'utilisation d'un moi lockien, puisqu'il dote précisément Émile de ce type de moi à partir du moment où Émile cesse d'être un tout nouveau-né et commence à se montrer un peu actif. Quand ses forces progressent, alors, je vous rappelle le texte, n'est-ce pas, il peut commencer à saisir lui-même les objets. C'est à ce second degré que commence proprement la vie de l'individu. C'est alors qu'il prend la conscience de lui-même, la mémoire étant le sentiment de l'identité sur tous les moments de son existence. Il devient véritablement un, le même, et par conséquent déjà capable de bonheur et de misère. Il importe donc de commencer à le considérer ici comme un être moral. Donc ça, c'est le moi lockien, puisque la conscience de soi fournit à l'individu une identité qui est l'identité de son moi, puisque cette identité consiste à pouvoir se retrouver, lui qui est conscient aujourd'hui, dans des actions du passé dont il a la mémoire. Et c'est cela que désigne l'idée que Rousseau vise en disant étendre le sentiment d'identité vers le passé. Et le résultat, c'est donc que les actions du passé sont imputables au sujet à présent, et donc nous avons maintenant un sujet moral. C'est donc le moi lockien, fondé sur la mémoire. Ce transport du moi est-il celui qui peut nous donner la bonne socialisation? Est-ce qu'on peut user de cette sorte de transport pour socialiser l'individu en lui faisant transporter son moi dans l'unité commune? Eh bien, absolument pas, parce que si vous regardez ce qui se passe chez Locke, Locke envisage tout à fait la possibilité que je déplace mon moi dans une autre personne humaine. C'est ainsi, dit-il, que si j'avais le souvenir d'avoir fait les actions de Néron, autre homme que moi, puisque Néron est mort depuis longtemps, si j'avais cette mémoire des actions de Néron, je serais non pas le même homme que Néron, mais bien le même self que Néron. Mais du même coup, je serais la même personne que Néron, et les actions de Néron me seraient imputables. Il y aurait une seule personne comme sujet d'imputation, qui s'appelle tantôt Néron, tantôt moi, ce serait le même. Donc, si nous avons un transport lockien d'un moi lockien, le résultat, c'est l'identité personnelle d'un particulier, et absolument pas un lien social. Donc, il faut évacuer le moi lockien. Alors, est-ce que Rousseau se sert parfois d'un moi condillacien? Donc, le problème a été évoqué ce matin. Qui est Rousseau, est-il ou non? Je crois qu'il l'est parfois et à d'autres moments, il ne l'est pas. Mais il l'est certainement dans le texte qu'a expliqué Martin Rueff ce matin. Avec sa statue, que serait la statue si, que serait, je veux dire, l'homme enfant, que serait l'homme si il naissait avec sa taille adulte? Ce serait une statue, donc il aurait le moi de Condillac, c'est-à-dire il serait sensation. Il serait sensation, et eh bien c'est exactement l'état par lequel commence l'enfant, Émile, c'est-à-dire avec des sensations purement affectives. Eh bien, si nous dotons le particulier d'un moi condillacien, pouvons-nous nous servir d'un tel moi pour procéder à des transports? Alors, il me semble qu'on le peut, et que c'est précisément le but de Condillac dans le traité des sensations que de transporter le moi, puisque, comme vous savez, l'objet de du traité des sensations, c'est de prouver que un être doté d'une vie mentale, commençant par la sensation, peut découvrir le monde extérieur. Le problème de la statue, c'est de sortir d'elle-même, c'est donc de transporter son moi d'abord dans son corps, puisque c'est la première étape, la statue doit découvrir qu'elle possède un corps, et deuxièmement, transporter ses sensations d'elle-même dans les objets. Donc découvrir les objets et projeter dans les objets, déplacer dans les objets les sensations qu'elle éprouve comme des modifications d'elle-même. Donc le moi condiacien est fait pour être transporté, c'est son but, encore que ici on doit noter un point intéressant qui est que selon Condillac, la sortie de la statue hors d'elle-même est une nécessité naturelle, mais cette nécessité naturelle trouve sa solution dans une illusion. La nature a prévu que un être qui ne serait que sensation ne pourrait pas connaître l'existence des objets extérieurs, et par conséquent, cette statue de Condillac serait exactement dans l'état qu'a décrit Rousseau avec son homme enfant, si il n'y avait pas le sens du toucher par lequel les sensations affectives deviennent des sensations représentatives. Et donc c'est ainsi que la statue transporte son moi dans son corps, mais c'est une illusion, dit Condillac. C'est par une illusion que nous croyons avoir notre moi dans le corps, alors et que nous croyons que nos sensations sont dans les objets, alors que c'est la statue, dans son état initial, qui avait raison. Elle avait son moi dans son âme, et les objets produisaient en elle des sensations, mais ne se donnaient pas à voir ou à sentir dans leur qualité physique. Bon, donc, ce point étant établi, n'est-ce pas, la statue est précisément l'être qui doit se transcender. A-t-on un tel transport chez Rousseau? Alors, je pense qu'on l'a dans la théorie de la pitié, puisque la théorie de la pitié permet à... n'est-ce pas, la théorie de la pitié rend compte de l'expérience de la pitié précisément par le fait que nous allons sentir ailleurs que là où nous sommes. Je deviens le sujet des sensations d'un autre, ce qui veut dire que je me suis mis à sa place, comme dit Rousseau, et donc, comme il dit, n'est-ce pas, ce n'est pas dans nous, c'est dans lui que nous souffrons. Ainsi, nul ne devient sensible que quand son imagination s'anime et commence à le transporter hors de lui. Donc, il y a chez Rousseau toutes sortes de passages où le moi prend son sens de Condillac, et il y a la théorie de la pitié qu'on peut accommoder, je pense, à Condillac. Mais ça ne nous donne pas le lien social, car la pitié n'institue aucun rapport social. La pitié reste finalement ce qu'elle était chez Aristote, c'est un rapport esthétique à la souffrance. C'est une expérience de la douleur d'autrui comme douleur que j'éprouve tout en... que j'éprouve esthétiquement, si je puis dire. Il n'en résulte pas une liaison de ma personne à celle d'autrui. Donc, ni le moi lockien, ni le moi condillacien ne peuvent nous expliquer comment un particulier peut se socialiser, ou plutôt peut subir la transformation de la socialisation sous l'effet des institutions sociales par le transport de son moi. Il faut donc chercher ailleurs. Et là, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui, au fond, arrête Rousseau dans son effort pour penser la formation du lien social. Et à cet égard, je voudrais commenter une note, moi aussi, dans l'Émile, dans la profession de foi du vicaire savoyard, note que vous trouvez comme commentaire du troisième dogme du vicaire, c'est-à-dire l'idée que l'homme étant libre, il a une âme. Et alors, il y a une note qui pose le problème de l'individu collectif. Et je pense que le problème de Rousseau, c'est... comment concevoir une conscience collective? Alors, dans cette note, dirigée contre les matérialistes, il s'en prend donc à l'idée que on croit qu'il est très facile de concevoir la matière en train de penser, n'est-ce pas ? Pourquoi la matière ne serait-elle pas pensante ? Donc, problème de Locke, l'a évoqué aussi ce matin. Et alors, il monte un argument contre cette idée, argument qui est intéressant parce qu'il est fondé sur une réflexion sur l'individuation. Alors, dit-il, supposant que la matière sente... Ah, j'accorde la thèse. Alors, dites-moi, vous qui êtes matérialiste, dites-moi où se situera cette pensée. Prenons par exemple un rocher et posons que ce rocher est doté d'une conscience. Donc, ce rocher pense, mais où pense-t-il ? Alors, il y a deux possibilités. Soit le rocher pense comme nous pensons, c'est-à-dire il y a une pensée du rocher, soit le rocher n'étant qu'après tout qu'un agrégat de particules, chaque atome, chaque particule du rocher est pensante, est dotée d'un moi. Ça fait donc deux théories de la matière pensante, explique Rousseau, et il y a donc une contradiction. Alors, ça vaut la peine peut-être de lire un bout de la note. S'il est vrai que toute matière sente, où concevrais-je l'unité sensitive ou le moi individuel ? Et donc là, nous avons un moi qui reste un peu condiacien, puisque c'est une unité sensitive, c'est un se sentir. Où concevoir donc l'unité sensitive ? Sera-ce dans chaque molécule de matière ou dans les corps agrégatifs ? Placerai-je également cette unité dans les fluides et dans les solides, dans les mixtes et dans les éléments ? Il n'y a, dit-on, que des individus dans la nature. Mais quels sont ces individus ? Cette pierre est-elle un individu ou une agrégation d'individus ? Est-elle un seul être sensitif en contient-elle autant que de grains de sable ? Si chaque atome élémentaire est un être sensitif, comment concevrais-je cette intime communication par laquelle l'un se sent dans l'autre, en sorte que leurs deux moi se confondent en un ? Alors voilà le problème, n'est-ce pas ? Si la matière pense, et si nous prenons comme exemple la matière inerte, donc le rocher, nous avons le problème monadologique, à savoir que chaque unité de matière sera en même temps une unité sensitive, et nous devons trouver le moyen pour toutes ces particules composant le rocher d'avoir le même moi. Il faut que, si nous prenons deux particules, il faut que leurs deux moi se confondent en un. Et ici, Rousseau présente en somme ce problème comme étant une objection décisive contre le matérialisme. Mais si l'on y réfléchit, c'est le même problème avec le corps politique. Et là, le problème, ce n'est pas une pure fantaisie, n'est-ce pas ? Le corps politique est précisément composé d'individus humains, de particuliers, chacun, n'est-ce pas ? C'est Caius, Lucius, etc., tous les individus humains. Et le problème du lien social, c'est de parvenir à doter la pluralité de ces individus d'une volonté qui leur soit commune, et donc de faire que leur volonté dispersée en vienne à fusionner dans la volonté d'un seul moi, chose qui peut sembler délicate si on se souvient, comme le dit Rousseau dans un texte qui appartient aux écrits sur l'abbé de Saint-Pierre, il dit « Les citoyens ont beau s'appeler membres de l'État, ils ne sauraient s'unir à lui comme de vrais membres le sont au corps. Il est impossible de faire que chacun d'eux n'ait pas une existence individuelle et séparée par laquelle il peut seul suffire à sa propre conservation. » Ce qui veut dire donc qu'il y a incompatibilité entre maintenir non pas simplement l'égoïsme moral des particuliers, mais l'égoïsme métaphysique des particuliers, c'est-à-dire leur conscience de soi, et obtenir que le corps politique qu'ils veulent former entre eux soit lui-même doté d'une conscience de soi. Donc, mon interprétation de la phrase par laquelle j'ai commencé se ramène à ceci. Rousseau, théoricien politique, a besoin d'un concept de volonté générale par là même d'un lien social permettant d'introduire un tel concept. Et ce concept de volonté générale lui est nécessaire en tant que distinct de la volonté de tous. Par conséquent, il lui faut poser la volonté générale comme volonté d'un objet qui n'est pas l'intersection des intérêts particuliers dont on ferait la somme se demandant quelle est la volonté des uns et des autres, donc la volonté de tous. Il lui faut donc trouver la volonté d'un bien propre au corps politique et faire surgir cette volonté d'un bien propre du corps politique de la pluralité des particuliers, c'est-à-dire en termes de philosophie de l'esprit, de métaphysique de l'esprit, de la pluralité des moi. Mais, dirais-je, la psychologie dont dispose Rousseau, la métaphysique de l'esprit dont il hérite, celle de Locke, celle de Condillac, est fondamentalement une psychologie égoïste au sens de l'égoïsme solipsiste. C'est une psychologie solipsiste. Il n'y a aucun moyen de tirer une conscience collective d'une psychologie du moi qui est une psychologie du moi seul, du moi solitaire, du moi unique, puisque chacun des moi, le moment vrai, le moment de vérité de la conscience de soi condillacienne, c'est le moment où la statue est tout au monde. Elle est tout pour elle-même. Elle ne connaît pas le reste du monde. Alors, le dernier mot de Rousseau est-il dans sa métaphysique de l'esprit ou dans sa théorie politique? Ici, je me référerai à Durkheim, dans son étude sur Rousseau, qui a été citée cet après-midi. Durkheim fait remarquer que Rousseau, traitant de la volonté, n'arrive pas à dépasser le stade que j'ai cité quand il dit le Romain n'était pas Caius, le Romain n'était pas Lucius, le Romain était le Romain. Et Durkheim, de façon assez pénétrante, je crois, appelle cela l'égoïsme abstrait. Sa solution, c'est les moi étant ce qu'ils sont, ce qui revient à dire que il y a cette position d'être tourné vers soi dans le sens d'un égoïsme. La solution pour unir ces moi, c'est d'introduire l'abstraction. Mais l'égoïsme abstrait possède un inconvénient qui est au fond au cœur de l'exposé de Pierre Manant tout à l'heure, c'est que cet égoïsme abstrait consiste à évacuer le particulier, c'est-à-dire les points sur lesquels la volonté va devoir se décider si c'est une volonté politique. Donc l'égoïsme abstrait n'est pas la solution, il faut la trouver ailleurs. Et où la trouver ailleurs? Eh bien, il me semble que c'est Durkheim qui l'indique, puisque, n'est-ce pas, nous avons bien commencé en disant que les institutions sociales s'adressent à l'individu et l'éduquent, lui donnent cette éducation publique qui transporte le moi. Donc, ce que cela veut dire, c'est que la production de la volonté générale n'aura jamais lieu si nous devons la concevoir comme un effort que fait le particulier sur lui-même pour devenir abstrait, comme si c'était le travail d'un individu. En réalité, c'est le travail du corps politique lui-même à travers les institutions sociales. Les individus n'ont pas demandé à être socialisés, ils le sont tout naturellement dans le processus de leur éducation, c'est-à-dire d'une éducation qui consiste à leur inculquer des mœurs. Et je conclurai en disant que Rousseau, théoricien politique, a besoin du concept de mœurs ou de coutumes, si on revenait à Montaigne, mais que Rousseau, héritier de Condillac et de Locke, n'a pas de place pour les mœurs, puisque les seules facultés, les seules dispositions psychiques qu'il peut concevoir, ce sont des facultés à la Condillac, des facultés engendrées à partir de la conscience, à partir de la conscience sensible. Et donc, si nous commençons par être une sensation, n'est-ce pas, une sensation ne peut pas avoir des capacités. Pour introduire les mœurs, c'est-à-dire des dispositions stables, des vertus aristotéliciennes, si vous voulez, des dispositions stables à agir dans un certain sens conforme à ce que doit être le groupe pour être en quête de son propre bien. Pour avoir des dispositions stables, il faut être un tout autre sujet que le moi de la métaphysique du moi. Et donc Durkheim, très pertinemment, je pense, nous dit le concept d'esprit dont Rousseau a besoin, c'est celui qu'il évoque quand il parle justement du législateur, de la production d'un esprit social, mais très certainement, il n'y a pas de place pour ces mœurs qu'inculque l'éducation à l'individu dans la métaphysique du moi.
Merci beaucoup.
dans la phénoménologie de l'esprit de Hegel, lorsque la conscience commence à structurer comme conscience de soi désirante, elle va naturellement trouver l'insuffisance de son désir dans les objets pour aller vers la confrontation et la lutte pour la reconnaissance. Déjà dans le préliminaire, il dira que la conscience, dans son développement, quittera l'apparence colorée de sa sensible et la nuit vide du suprasensible pour entrer dans le jour spirituel de la présence. Et c'est là où il parlera de l'entrée dans ce moi qui est un nous et de ce nous qui est un moi, annonçant déjà la vérité, effectivement, toute la structure de la conscience de soi singulière, conscience de soi universelle à raison, pour donner qu'en vérité tout ce processus aura pour vérité l'esprit. Donc ici, il y a un moment qui est celui de la reconnaissance et que la structuration véridique de la communauté est faite à travers la lutte pour la reconnaissance. Et c'est une lutte violente par laquelle on met en danger la vie de l'autre et en mettant la vie de l'autre en danger, on met la sienne propre en danger. La question que je pose, c'est, puisque la question de la constitution d'une communauté, chez Rousseau comme chez ceux du contrat, les penseurs du contrat, que ce soit chez Hobbes ou Rousseau, elle passe par la médiation du langage, chez Hegel c'est par la lutte. Quel est le statut de la reconnaissance chez Rousseau, puisqu'il y a puisque la lutte est évacuée? Voilà la question que je voulais poser.
Merci monsieur. Est-ce que Vincent Descombes...
C'est une question pour moi.
Ben oui. Il me semble qu'elle s'adresse à vous. Enfin, si vous voulez répondre. Éventuellement, répondez tous les deux. Comme ça,
donc,
voilà.
C'est une question partagée. J'ai pris soin d'éviter d'évoquer cette thèse de Hegel parce que je suis frappé par le fait qu'il n'y a pas dans le passage que j'ai commenté de nous. Il n'y a pas de nous. Alors, tout le monde est bien d'accord pour dire que la pensée de Hegel sur le moi qui est un nous est en un sens un commentaire de Rousseau, mais Rousseau, lui, quand il dit nous, dans le contrat social, c'est un nous complètement distributif. C'est chacun s'approprie la formule, n'est-ce pas? Et donc, Rousseau en reste à ce que Durkheim appelle l'égoïsme abstrait. Pour Hegel, lorsque Hegel dit ça dans la phénoménologie de l'esprit, le moi qui est un nous, ça n'est pas déjà au moment de la lutte des consciences, c'est ce qui s'annonce pour bien plus tard, c'est l'esprit. C'est le commencement de ce qui sera beaucoup plus tard l'esprit.
Il l'annonce,
il ne dit pas que c'est, on l'a déjà, il dit c'est ce qui sera, c'est ce qui sera compris plus tard comme l'esprit. Ce qui permet à Hegel d'interpréter ainsi Rousseau, c'est que dans les écrits de Iéna, n'est-ce pas, c'est là qu'il s'exprime sur la volonté générale, et il choisit d'ailleurs assez génialement de laisser tomber complètement tout ce qui est contractualisme et de s'en tenir à l'idée que le tout vient avant les parties, le bien de la cité vient avant les biens particuliers, et c'est ça la volonté générale. Et donc c'est à partir de là qu'il peut passer du jeu au nous, tandis que tous les textes que j'ai cités m'ont paru remarquables dans la mesure où il s'agissait de passer au moi commun, d'avoir un moi commun et non pas un nous. Un moi commun, il n'y en a qu'un. Un nous, il faut moi et d'autres. Et donc c'est ça la différence.
Bien, si, je voudrais aussi répondre à votre question. Alors d'abord sur... Il y a effectivement une matrice de la lutte pour la reconnaissance hegelienne dans une relecture de la sortie de l'état de nature de Rousseau. Elle n'est pas dans la phénoménologie de l'esprit, mais elle se trouve dans les écrits de Iéna. C'est commenté notamment dans L'envers de la dialectique, le livre de Gérard Lebrun, et il s'attache à montrer justement, à suivre une comparaison entre Hegel et Rousseau sur cette question de l'éveil de la conscience de soi en comparaison avec l'éveil de l'amour propre chez Rousseau. Et il montre que, pour Hegel, il va de soi que le moment de la conscience de soi, en tant que sortie de l'état de nature, dans les écrits de Iéna, est celui où se révèle la violence de la nature. C'est une violence qui était contenue parce qu'elle ne trouvait pas de moyen d'expression, mais c'est bien la violence de la nature qui se manifeste dans la conscience de soi et dans la lutte pour la reconnaissance. D'ailleurs, Lebrun, lorsqu'il commente Rousseau, au regard de Hegel, dit Rousseau a l'astuce d'avoir un certain nombre de pichenettes, c'est des petits coups de pouce, qui permettent, selon Lebrun, d'éviter une lutte à mort pour la reconnaissance, l'instauration d'une situation de domination. Il dit les hommes dans les forêts étaient isolés les uns des autres, leurs rencontres n'étaient pas assez fréquentes. Lorsque l'un gagnait un combat face à l'autre pour je ne sais quel fruit, si l'autre ne voulait pas être dominé, il lui suffisait de partir, et puis 10 minutes après, il avait oublié le sujet de la querelle. Bon. Alors, j'irai simplement plus loin, moi encore, dans la comparaison entre les deux textes, c'est-à-dire entre le discours sur l'inégalité et cette fois-ci la description de la lutte à mort pour la reconnaissance de soi dans le chapitre 4 de la phénoménologie de l'esprit. Bon, ce qui me paraît décisif dans l'analyse de Hegel, c'est qu'elle commence par lier l'éveil de la conscience de soi à la conscience d'autrui et la conscience de ma mort. Et que les deux aspects sont indissociables. Autrement dit, la dimension réflexive, le passage d'un sentiment de soi à une dimension réflexive de la conscience de soi, s'accompagne chez Hegel d'une conscience de ma mort, comme de ma finitude, si vous voulez, et d'une conscience de ce qu'est le regard d'autrui. Autrui, en quelque sorte, le regard d'autrui objective ma mort, me ramène à un état d'objet qui ne me convient pas. En un sens, on trouve quelque chose de tout à fait semblable dans le second discours. Ce qui accompagne cet état de dépravation qu'est l'état de réflexion, c'est une phrase qui exagère un petit peu le sens du second discours, mais qui va caractériser l'éveil de l'amour propre aussi, c'est, semble-t-il, la conscience, la connaissance du fait que je vais mourir. La connaissance de la mort est d'une des premières qui soit acquise avec la sortie de l'état de nature, dit Rousseau. Mais effectivement, mystère, il n'y a pas de lutte à mort pour la reconnaissance entre des individus. J'ajouterais, et c'est un dernier point par rapport à la dernière question que vous avez posée sur relativement au rôle du langage là-dedans. Je voudrais juste commenter en deux secondes un texte célèbre de l'essai sur l'origine des langues où Rousseau, justement, décrit quelque chose qui pourrait, c'est une fiction, mais qui pourrait être la rencontre par un homme d'un autre homme en tant que tel. Pour la première fois, qu'est-ce qui se passe pour qu'un homme voit un homme pour la première fois en tant qu'homme ? Et ce qui est remarquable dans le texte de Rousseau, c'est que la première chose qui se passe, il dit, il sera d'abord effrayé. Il sera d'abord effrayé. C'est un texte où Rousseau dit, étant effrayé, après sa frayeur, ou son effroi, on ne sait pas quel est le terme qui convient, il les appellera géants, ces hommes qu'il aura vus. Et puis, à force d'observation, à distance, il finira en se rendant compte qu'ils sont finalement plus semblables à lui qu'il ne croyait, qu'il y a moins de disproportion entre eux et lui, il les appellera hommes, ou quelque chose comme, quelque analogue de cela. Ce qui est remarquable chez Rousseau, c'est que dans la première rencontre, en fait, l'apparition d'autrui comme telle est l'occasion d'un effroi qui est comme la peur du maître absolu, si vous voulez, chez Hegel, la peur de la mort, quelque chose de tellement terrible que la comparaison entre moi et l'autre homme prend le tour de la disproportion. Et je n'ai pas le temps de m'identifier à lui ou de l'identifier à moi, je dois prendre mes distances. Qu'est-ce qui me permet de m'identifier à lui après et de nous réunir sous une même appellation, ce mot « homme », c'est de pouvoir l'observer à distance, c'est de m'apercevoir que ce géant est en fait aussi faible que moi. Donc, je pense que ce qui se joue ici et qui permet la reconnaissance de l'autre homme comme autre homme, c'est d'abord la pitié. Les luttes d'amour-propre me semble, dans la logique qui est celle de Rousseau, postérieure au mouvement de la pitié. Mais antérieure encore au mouvement de la pitié, il y a le moment d'effroi que décrit Rousseau.
Je voudrais à mon tour poser une question, et je vous donnerai la parole tout de suite après, qui fera peut-être un lien entre les deux exposés. Si en effet, comme vous l'avez dit, il y a chez Rousseau un travail généalogique, cela a d'énormes conséquences. L'amour-propre, c'est le mal pour Rousseau, et le mal a une histoire. Donc, par une histoire mieux faite, on pourra éventuellement venir à bout du mal. Les défauts de l'homme, dit Rousseau, n'appartiennent pas à l'homme, mais à l'homme mal gouverné. Et il me semble que la grande question de Rousseau, c'est en effet, non pas de revenir à la bonté originelle, bien sûr, mais de conjurer les maléfices de l'amour propre. Et la question que je voudrais vous poser est celle-là, Vincent Descombes. Est-ce que tout le dispositif politique de Rousseau, transporter le moi dans l'unité commune, ne vise pas d'abord, justement, ou la volonté générale, ou la fusion des consciences, comme on la voit décrite à la fin de la lettre sur les spectacles, ne vise pas précisément à guérir les êtres humains de cette compétition effroyable des amours propres entre eux. C'est idiot comme question.
Non. Non, mais je penche plutôt pour la thèse d'Durkheim, là, de l'égoïsme abstrait. La modification demandée à l'individu pour devenir social consiste simplement à lui demander d'avoir l'amour de soi ailleurs que là où il l'aurait s'il était un homme naturel. Or, nous ne sommes pas des hommes naturels, donc effectivement, il y a une solution politique au problème de la mauvaise socialisation qui est la bonne socialisation. Si on peut dire, enfin, est-ce une solution ou est-ce une utopie, un rêve, je ne sais pas, mais très certainement, dès lors que les hommes sont socialisés, s'ils le sont sans le lien social, on a la situation que décrit Rousseau dans l'Émile, n'est-ce pas ? Monseigneur, il faut bien que je vive, je n'en vois pas la nécessité. Ben voilà deux individus parfaitement socialisés, mais sans aucun lien entre eux. Sans aucun lien entre eux. Alors, s'il y a le lien social, ce problème de la solitude à plusieurs est réglé, mais ça ne veut pas dire que l'amour propre a été surmonté, l'amour propre a été déplacé. Et d'une certaine façon, je ne sais pas si les rousseauistes ici seront d'accord, mais est-ce que les propos de Rousseau sur la dureté du patriote à l'égard des étrangers, est-ce que ce n'est pas l'amour propre collectif?
Oui, bon, il me semble que dans votre question, ce qui est un petit peu sous-jacent, finalement, pourrait se résumer dans la formule qui veut faire l'ange et la bête, en quelque sorte, qu'en pensant une sorte de généalogie qui remonterait à la bonté naturelle de l'homme, il y aurait, chez Rousseau, vous avez dit, l'idée de la pensée d'une histoire possible qui éradiquerait le mal, quelque chose comme ça, si je vous suis bien. Je ne crois pas exactement. Enfin, je ne crois pas que ce soit l'enjeu réel, en fait, de la pensée de Rousseau. Je ne dis pas que c'est pas une lecture qui puisse en être proposée, qu'il n'y ait pas des lectures utopistes, en fait, aussi de Rousseau qui puissent être proposées. Mais je ne crois pas que ce soit le but. Il me semble que la première chose, c'est que il ne nie pas l'état de corruption qui est celui de l'homme. Donc il commence par partir de cette donnée, et lorsqu'il propose sa généalogie, ce serait au mieux une histoire possible. Bon, reste à voir si c'est une histoire future. Bon, dans la plupart de ses textes, je crois que c'était aussi le sens de l'intervention de Pierre Manant, c'était de souligner que le caractère révolutionnaire de la pensée de Rousseau était peut-être moins... évident qui ne nous semble rétrospectivement. Mais la deuxième chose, c'est que je pense qu'en fait, pour qu'il y ait une bonne histoire, ou pour qu'il y ait cet horizon d'une histoire sans mal, il faudrait déjà qu'on ait une idée d'où va l'histoire, de ce que nous donne à voir l'histoire, et de ce qu'elle nous donne à voir peut-être de l'homme. Il me semble que s'il y a une conception qui nous donne une destination de l'homme à travers l'histoire, ou que cette fin de l'histoire soit pensée comme l'esprit ou la destination de l'homme, c'est plutôt un schéma tel que celui d'une dialectique, par exemple. Donc c'est penser que l'homme présent a en lui quelque chose qui le travaille comme ce qu'il n'est pas encore, ou quelque chose comme ça. Je crois que chez Rousseau, il n'y a pas de ce que l'homme n'est pas encore. Il n'y a pas ça dans la vision de l'homme à travers l'histoire. L'homme de l'état de nature, il est encore informe. On ne peut pas dire qu'il nous donne à voir l'essence de l'homme. L'homme, à chaque étape de l'histoire, change, il est difforme, etc. S'il n'y a pas non plus de destination, si l'histoire n'est pas l'effectuation ou la réalisation de ce qu'est l'homme, je crois que ça limite grandement cette idée d'une histoire sans mal ou d'une histoire où finalement la véritable humanité pourrait s'accomplir. Je ne crois pas qu'on puisse la présenter trop vite.
La discussion pourrait continuer, bien entendu, mais je ne veux absolument pas accaparer la parole. Patrick Rochard.
Oui, j'aurais deux petites remarques que je voudrais adresser à Dr. Pépin. La première, c'est sur la question de l'indifférence au bien et au mal. Il me semble que la bonté naturelle, justement, elle est en un certain sens indifférente au bien et au mal, mais parce que justement, c'est un état sans contraire. Donc, c'est pas une bonté qui est opposée à une mauvaiseté, en quelque sorte. C'est une bonté, un point, c'est tout, en quelque sorte. Hein. Bon. Et le deuxième point que je voulais indiquer, donc, par rapport à cela, au contraire, dès lors que l'on est dans le bien, hein, on est nécessairement exposé au mal. Et il me semble que de ce point de vue-là, justement, l'utopie d'un monde social, effectivement, sans mal, n'a pas de sens pour Rousseau, en quelque sorte. C'est-à-dire, au contraire, dès lors que l'on sort de cet état de bonté naturelle, hein, on est dans un partage. On est nécessairement donc dans un partage, et d'un côté ou de l'autre, ou enfin bon, en naviguant comme on peut, quoi. Bon. Et la deuxième petite remarque, c'est à propos du texte de Jaucourt de l'Encyclopédie. Et c'est sur le fait, me semble-t-il, donc, que l'amour de soi, chez Rousseau, je ne suis pas si certain que cela, que dans les expériences de l'amour de soi qu'il donne, que ce soit des expériences si pleines, effectivement, que cela, et qui soient si manquantes de manque, pour reprendre l'expression de Martin Rueff, que vous l'avez semblé le dire, précisément. Et je me référais justement à la fameuse lettre à Malesherbes, la troisième lettre à Malesherbes, et à cette mélancolie qui, je dirais par grève d'ailleurs, puisque c'est une mélancolie, une tristesse attirante qu'il ne voudrait pas ne pas avoir, c'est d'ailleurs une des occurrences de cette expression dont j'ai parlé ce matin.
Oui, alors, je vais prendre le micro pour répondre sur les deux points. Je suis tout à fait d'accord en fait avec votre première remarque sur la bonté naturelle, c'est-à-dire... Moi, si je l'ai opposé au mal naturel, c'est juste comme terme, parce qu'il me semble que je me suis juste intéressé à quel sens pouvait avoir ce terme de bonté naturelle en regard de ce qui peut être appelé à la même époque mal naturel. Et donc, je pense effectivement que l'indifférence morale que vous décrivez, oui, elle est parfaite. Il n'y a pas de mal qui s'oppose à cette bonté, il y a absolument pas de mal. Et je pense effectivement, comme ce que vous dites sur l'utopie d'un monde sans mal, n'est pas tenable pour la simple proposition que j'ai formulée, qui est que la cause de notre sensibilisation justement au bien et au mal moral, c'est l'altération. L'altération successive de la bonté naturelle. Donc, s'il y a cette altération, c'est bien que on va toujours être, une fois cette altération opérée, dans une logique qui devient une logique morale de ce point de vue-là. Ce qui est intéressant, c'est de la ressaisir à partir de ce moment, du point de vue généalogique. La deuxième chose, alors sur la question de la mélancolie, je suis pas là non plus en désaccord avec vous. Parce que j'ai pas voulu dire que l'expérience justement de la bonté naturelle était une expérience d'abord d'un être qui tout à coup n'aurait pas de conscience de ses limites. Je pense qu'il rencontre des limites d'abord physiques, ce qui m'intéressait, c'était de savoir si en gros, d'emblée, il était contenu ou non, dans l'amour de soi, quelque chose comme un désir mimétique ou la constitution d'un rapport négatif à autrui, la rencontre d'autrui comme celui qui peut me nier, quoi, qui peut nier le sens que j'ai à dire, je suis, quelque chose comme ça. C'était d'abord ça. Il me semble ensuite que, bon... Rousseau tend à dire que tout est tout est bon sorti des mains de la nature. Qu'est-ce que ça veut dire, là encore, ce tout est bon sorti des mains de la nature? Ce qui m'intéressait, c'était de le comparer, par exemple, avec ce que dit Hegel à propos de la nature. Il ne faut pas diviniser la nature. La nature porte en elle la contradiction irrésolue, dit Hegel. C'est-à-dire la contradiction qu'elle n'est pas capable de relever. Il me semble que là aussi, il y a une opposition qui est très, très marquée, c'est que, pour Hegel, la nature, ça n'est que quelque chose qui ne cesse d'être extérieur à soi, qui ne cesse de se contredire en chaque point, partes extra partes, et entre chaque instant. Chez Rousseau, c'est pas du tout ça, la nature. Et je pense que l'idée de nature chez Rousseau, voilà, elle est d'emblée rétive, malgré tout, de par quelque chose qui relève d'une expérience du sentiment de l'existence, d'emblée rétive à cette interprétation dialectique de la nature qu'on trouvera après. La raison pour laquelle je disais sans privation, c'est parce que justement, je pourrais m'appuyer ici sur la fameux épisode de Ménilmontant, la chute, et le je naissais en cet instant à la vie. On peut trouver une certaine mélancolie dans la lecture de ce passage, mais en réalité, elle est plutôt antérieure à ce passage. C'est le moment où il dit « j'étais à l'automne de la vie ». Tout. Dans ce moment lui-même, il y a quelque chose qui coule, il y a une liquidité du temps, quelque chose comme ça, mais il n'y a pas une mélancolie comme une tristesse à l'égard d'une fin de vie ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de rapport de fin, alors que c'est un moment où, en un sens, le sentiment de l'existence est privé de tout. Privé, il n'y a pas d'individualité, il n'y a absolument plus rien de tout ça. C'est ça que je voulais décrire comme une absence de privation dans le sentiment de l'existence, dans l'expérience peut-être la plus, je dirais pas forcément la plus originelle, mais la plus significative, je crois, du sentiment de l'existence chez Rousseau.
Je vais dire encore un tout petit mot avant de passer la parole, mais c'est juste en commentaire de ce que vous avez dit l'un et l'autre. Je rappelle une citation à laquelle je me suis déjà référé tout à l'heure. « Je hais la servitude comme la source de tous les maux du genre humain ». Citation très abondamment commentée par Arthur Meltzer dans son livre sur la bonté originelle. Si la servitude est la source de tous les maux du genre humain, le mal n'est pas un attribut de la nature humaine, c'est un effet de la mauvaise socialisation, et il me semble que toute l'œuvre philosophique, pédagogique, psychologique de Rousseau témoigne du fait qu'il ne se résigne pas à cette mauvaise socialisation. Voilà ce que j'essayais de dire, mais je...
Oui, moi, c'est une question qui est adressée explicitement à Vincent Descombes. Et donc, ça vient aussi de la démonstration qu'a conduite Pierre Manant. Est-ce que ça n'est pas un produit précisément de la volonté générale, en tant que volonté générale, en tant qu'inscrite dans la loi, et que cette mise en commun dans un moi qui serait celui de chaque et de tout citoyen. Alors, pour préciser ma question, j'ai un passage des considérations sur le gouvernement de la Pologne auquel j'aimerais bien que vous savoir ce que vous pourriez donner comme commentaire. Enfin, j'aimerais bien connaître le commentaire que vous pourriez en faire. C'est surtout pour cette raison que je vous pose la question. Donc voici ce passage. Lycurgue entreprit d'instituer un peuple déjà dégradé par la servitude et par les vices qui en sont les faits. Il lui imposa un joug de fer tel qu'aucun autre peuple n'en porta jamais un semblable. Mais il l'attacha, l'identifia pour ainsi dire à ce joug en l'en occupant toujours. Il lui montra sans cesse la patrie dans ses lois, dans ses jeux, dans sa maison, dans ses amours, dans ses festins. Il ne lui laissa pas un instant de relâche pour être à lui seul et de cette continuelle contrainte ennoblie par son objet, naquit en lui cet amour ardent de la patrie qui fut toujours la plus forte ou plutôt l'unique passion des Spartiates et qui en fit des êtres au-dessus de l'humanité. Alors, dans ce que j'ai entendu de votre interrogation très très méthodique, il y a une zone où on ne comprend pas ce que ça peut être que ce transport. Sauf qu'il y a une agrégation de moi qui n'arrive pas à se constituer en volonté générale. Et ce texte-là me semble dire que Licurgue, en instituant la loi et en obsédant les citoyens de Sparte de cette loi, finit par persuader qu'ils sont un moi collectif auquel s'identifie la loi. Bon, enfin, ma paraphrase est inutile. J'aimerais surtout voir comment vous pouvez réagir à ce texte-là. Je ne sais pas, peut-être que vous ne le trouverez pas pertinent.
Alors, c'est, certainement, ce texte, comme tous les textes sur le législateur, sont des textes qui dans cette figure impossible là, du législateur, parlent en réalité des institutions sociales imaginées par ce législateur pour discipliner, organiser l'éducation publique et donc même produire ce fameux transport. Mon problème est un peu différent. Si on se donne les institutions sociales, alors, d'une certaine façon, on a déjà... au fond, je poursuis Durkheim. Si on se donne les institutions sociales, et donc tout ce que vous avez cité, là, donc dans le cas des Spartiates, peu particulièrement dur à discipliner, semble-t-il. Il faut leur casser les pieds jour et nuit par des mesures absurdes. Bon, comme ça, ils sont sans cesse obsédés d'être des Spartiates. Donc nous avons les institutions sociales et elles sont ainsi faites qu'elles produisent les mœurs. Mais si on a les mœurs communes, le problème est réglé. Le problème est réglé. Il n'y a plus à... Parce que les mœurs ne se passent pas à l'étage de la conscience, de la sensation, n'est-ce pas ? Au fond, la contradiction... Donc, si les Spartiates ont ces lois et s'ils respectent les lois qu'ils ont, s'ils sont attachés, alors à ce moment-là, le problème est réglé. Le problème est réglé parce que en chaque... individu spartiate, et dès sa naissance, le pli est pris pour que soit possible l'émergence de la volonté générale du bien propre à la cité de Sparte. En revanche, si on se place dans une problématique du moi, et d'un moi qui est le moi d'une conscience qui se sent dans l'état où elle est, du fait que elle se sent odeur de rose, elle se sent existante, finalement, l'épisode Ménilmontant, il n'y a même pas le moi, mais il y a l'existence. Donc, si c'est ça, le moi, nous avons une donnée qui n'est pas du tout les institutions, les nouveau-nés et la production des mœurs dans les nouveau-nés, mais nous devons faire surgir, comme contenu de la conscience de l'individu, le même moi que chez les autres individus. Et le même moi ne veut pas dire un moi semblable, ça ne veut pas dire que, par exemple, on respire tous la même odeur de rose et donc nous avons des contenus semblables. Non, il faut le même moi au sens de la note de l'Émile là, que j'ai commentée, à savoir, il faut que je me sente dans l'autre et que l'autre se sente en moi. Il y a un seul moi, n'est-ce pas ? La définition du moi, c'est qu'il n'y en a qu'un seul. Donc une problématique du moi est forcément... virtuellement solipsiste. Et donc on a beau dire moi commun, moi en commun, c'est toujours un seul et même moi. Je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Rousseau, c'est ça son problème. Il offre certaines solutions, mais je fais remarquer qu'il y a un écart qui subsiste entre Rousseau traitant du transport du moi et Rousseau traitant du résultat que c'est censé produire, à savoir la volonté générale s'énonce. Le bien propre à la cité n'est pas confondu avec un intérêt commun du moment, n'est-ce pas, qui serait distinct de l'objet si ce qu'il faut obtenir, c'est que les gens veuillent le bien propre de la cité. Mais si on part du moi, la seule façon de l'obtenir, c'est celle de l'égoïsme abstrait, là, dont parlait Durkheim, c'est-à-dire en agissant sur la sphère propre de chacun de façon à lui donner un caractère de généralité qui supprime les différences individuelles. Et le problème, c'est que si on supprime les différences individuelles, on supprime le particulier. Donc la vie politique s'évanouit également. Si, comme j'avais fait l'hypothèse au début, le problème de Rousseau, c'est de maintenir une existence pour la politique consciente de vouloir ce qui doit être le but du politique, c'est-à-dire le bien de la cité, à ce moment-là, le résultat est raté, en quelque sorte. En somme, on a des prodiges d'héroïsme, mais ces prodiges d'héroïsme sont un peu inutiles s'ils ne nous donnent pas... Si ce qu'ils doivent nous donner, c'est une fusion de nos consciences par le biais d'une fusion des moi, n'est-ce pas ? L'idée d'une fusion des moi est une absurdité.
C'est peut-être une question justement à Vincent Descombes. Vous avez traité principalement de deux sens du mot moi en vous appuyant sur cet article, en distinguant donc un sens métaphysique et un sens moral. Et ce sens métaphysique, vous l'avez examiné principalement à travers Condillac et Locke. Le sens moral, vous avez fait référence principalement à Pascal, l'invention du substantif moi, en fait, dans la langue française et la sienne, et puis même la reprise du mot dans la traduction française, il y a une référence qui est faite à Pascal. Donc l'ambiguïté entre les deux sens est présente au départ. Mais j'étais étonné que... mais c'est peut-être aussi pour des raisons de temps, qu'il n'y ait pas finalement un sens du mot « moi » comme acte de se poser, quelque chose comme un sens plus cartésien finalement de ce « moi », quelque chose comme un « je pense donc je suis » ou un « je veux donc je suis », qui est finalement peut-être présent aussi chez Rousseau lorsqu'il distingue un « moi » passif qui relève d'une logique des sentiments et des affections, d'un moi actif qu'il dit être différent, ne serait-ce que par le fait qu'il est capable de se poser de façon langagière.
Mais je ne suis pas sûr de vous suivre, là, parce que un cogito langagier de Descartes...
C'est-à-dire, en fait, l'idée que le c'est moins sur la notion de transport, en fait, là, que je m'interroge. C'est sur l'interprétation de cette expression, le moi commun. Comment est-ce que, quel est le sens de ce moi commun? C'est-à-dire non plus quelle est la nature du moi qu'on transporte finalement dans le moi commun, mais est-ce que le statut de ce moi commun ne pourrait pas être compris simplement comme un acte langagier, en fait, voilà, comme l'acte langagier d'une volonté qui se pose. Quelque chose comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est...
Mais je ne comprends pas une volonté qui se pose.
Je dirais juste que si je pose quelque chose, comme si je dis « je pense, donc je suis », il me semble qu'il y a dans l'acte de penser immédiatement la position de ce « je ». Je crois qu'elle est... Bon, c'est quelque chose qui...
Il y a l'affirmation d'une vérité. Vous voulez trouver le Fichte dans Descartes, c'est ça ?
J'aimerais trouver, en fait, plutôt la Fichte chez Rousseau.
Ah, mais non, ça ne marche pas du tout, c'est pas possible. Peut-être je peux répondre comme ça. Rousseau, Descartes est dans Rousseau, non pas... J'ai écarté l'ego de Descartes, parce qu'il n'est pas dans le concours, là, si je puis dire, pour fournir à Rousseau. Il y est, disons, indirectement par le fait que les autres dérivent de lui. Mais chez Descartes, il y a bien un moment ce ego illé, n'est-ce pas, ce moi, mais il n'est pas censé, justement, être fichtéen. Il n'est pas censé se maintenir par son auto-position. C'est l'objet d'interrogation, n'est-ce pas, ce moi dont il vient d'être question, qu'est-ce qu'il est ? Eh bien, c'est l'âme. Tant qu'il n'y a pas l'âme... Alors, si vous voulez sauter à Fichte, ça veut dire que c'est l'interprétation allemande de Descartes, n'est-ce pas, où cette histoire d'âme, c'est en trop, c'est une rechute lamentable dans la substance. Il fallait rester à la à ego cogito et trouver l'entité ego dans l'acte de pensée lui-même. Mais ça n'est pas possible pour Descartes. C'est un non-sens.
Non, mais vous avez raison, quand je parle beaucoup plus de Fichte ici que de
Descartes. Ah oui, d'accord.
Mais je veux dire que c'est une lecture qu'ils ont proposée justement du sens de quand Hegel parle, je crois, du concept de volonté chez Rousseau, il me semble que c'est ce qu'il a à l'esprit. D'ailleurs, il lui donne un statut, une place à Rousseau qui peut évoquer Descartes, d'ailleurs, dans ce caractère fondateur. C'est peut-être impossible, mais il me semblait qu'il y avait juste ce troisième sens du moi qui était peut-être postérieur, mais que cette postérité semblait croyait avoir trouvé chez lui.
Non, il y a des mois postérieurs. Il y a le mois biranien, il est rousseauiste à bien des égards. Il y a des mois postérieurs. Mon problème était différent. Vous avez le pronom moi. Alors, le pronom moi, lui, ne pose pas de problème. C'est le moi pascalien, n'est-ce pas? C'est le fait de se mettre en avant, de dire moi, et là, c'est le pronom qu'on utilise. Bien. Et maintenant, nous avons. Le moi des philosophes. Alors, il y a quelque chose de cartésien, je dirais, dans le moi rousseauiste du contrat social, avec cette histoire de s'approprier. Parce que, n'est-ce pas, quand nous avons fait nos classes de philosophie, les professeurs ont toujours expliqué le cogito en disant « Ah, c'est, attention, c'est pas de la psychologie, il faut pas le prendre comme des anecdotes, n'est-ce pas ? C'est tout être pensant, là, qui est en cause, et en un sens, c'est juste. » La méditation de Descartes ne vise pas spécialement Descartes. Chacun doit se l'approprier. Alors, de la même façon, la formule du contrat social, elle est ainsi faite que chacun doit pouvoir se l'approprier. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est le mouvement de l'appropriation qui procure l'individuation de cet ego du cogito. Sinon, il n'y en a pas. D'où sort l'individuation? Alors, ça, c'est le problème que s'est posé Locke, n'est-ce pas? C'est pour ça que la problématique du 18e, c'est Locke qui prend la place de Descartes comme le grand maître. Et le cogito s'efface devant la conscience de soi de Locke, parce que Locke pose le problème de l'identité. Descartes l'évoque. Descartes l'évoque en disant « Je pense, j'existe, mais combien de temps ?» Pour l'instant, j'existe, mais si je... Est-ce que ça continue? Si j'arrêtais de penser? Bon, il pose toutes ces questions et il répond par l'âme. Mais avec l'antisubstantialisme du XVIIIe siècle, n'est-ce pas, le problème de l'identité doit être posé d'une façon ou d'une autre. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que s'il est posé dans les termes d'une philosophie à la Locke ou à la Condillac de la conscience... il est en réalité insoluble, puisque nous sommes dans une perspective qui est d'emblée solipsiste. Et le théoricien politique, lui, il a besoin de pouvoir penser trois choses, n'est-ce pas ? La particularité des citoyens, Caius, Lucius, la particularité de la cité elle-même, Athènes, Sparte, n'est-ce pas ? Et donc, c'est le problème de l'individu collectif que rencontre Rousseau dans la note de l'Émile, là. Et troisièmement, la possibilité pour des particuliers de se donner un objet commun. Si nous avons d'emblée les institutions sociales, ça veut dire qu'on a déjà la cité, on a déjà le peuple, et le problème, c'est d'introduire un enfant dans ces institutions sociales. Mais il n'y a pas à produire un moins commun, puisque nous avons déjà le corps politique. En revanche, l'exercice d'autopposition qui n'aboutit pas, à mon avis... C'est le livre 1 du contrat social, où ce contrat social exigerait une autopposition, mais cette autopposition, elle n'a pas lieu. N'est-ce pas? Puisque si c'est une aliénation, nous sommes bien d'accord. Alors, pour aliéner, il faut donner à quelqu'un d'autre, mais ce quelqu'un d'autre n'existe pas tant qu'on n'a pas fait l'aliénation. Donc, c'est tout à fait l'autopposition, dans sa contradiction intrinsèque. À mon avis, l'existence du législateur là, dans le contrat social, c'est la contrepartie de l'aberration de l'autopposition au début. Ce que le livre 1 n'a pas véritablement fait, c'est le législateur qui va le faire. C'est-à-dire, il va casser les pieds aux Spartiates. Voilà. C'est là le contrat social. Tandis que le consensus des volontés, la production du moi commun, ça, c'est une mythologie.
Disons que le sens du livre 1, c'est de parler de l'acte par lequel un peuple est un peuple. En un sens, la tâche du législateur en amont, c'est d'abord de faire qu'un peuple devienne un peuple, ou quelque chose comme ça.
Qu'un peuple devienne un peuple, un peuple est un peuple. C'est d'expliquer, à partir du moment où il y aura un peuple, qu'est-ce qui fait qu'il est un peuple? C'est le fondement de la légitimité de ces lois. Bon, là, nous sommes d'accord. Mais nous devons bien créer ce peuple. Il est bien question de créer l'association. Cette association ne peut pas naître d'une autoposition.
C'est exactement ce que je voulais dire, en fait, en disant que le législateur a été une sorte de...
Ah bon, alors, donc nous sommes d'accord.
Là, nous sommes d'accord ce point-là.
Très bien. Bon, ben voilà. Les applaudissements mettent un terme à notre séance. Merci beaucoup.